Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de Parce que la science n'attend pas, votre émission qui commente l'actualité scientifique. On commence sans plus attendre par notre premier sujet qui concerne les éclairs. Quoi de plus beau par un soir d'orage qu'un balai d'éclairs illuminant le ciel ? Mis à part leur beauté et également leur dangerosité, il semblerait que les éclairs soient en fait des petits laboratoires naturels. Déjà, pourquoi est-ce que les éclairs existent ? Il faut savoir que notre planète Terre est électriquement neutre, mais elle est sujette à un phénomène assez étrange. Des charges négatives la fuient sans cesse. Sans vous en rendre compte, vous êtes traversé chaque jour par ces charges fuyardes. Ce phénomène a pour conséquence de charger la Terre positivement, et cette charge augmente avec le temps. Mais je vous ai dit que la Terre était neutre, pas positive. Eh bien oui, parce que quand la différence de charge entre la Terre et les charges fuyardes est bien trop grande, on a un éclair. Les éclairs sont en fait un moyen de recharger la Terre en charge électrique, de manière à ce qu'elle reste tout le temps électriquement neutre. Mais si vous avez déjà fait un peu d'électricité, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'un éclair est très difficile à obtenir. Si vous mettez deux fils l'un en face de l'autre sans les relier et que vous créez une différence de charge entre les deux, il se passe pas grand chose. Et heureusement, en fait l'air est un très bon isolant électrique. Mais quand la différence de charge est très importante, l'air devient conducteur et on a un éclair qui véhicule une énergie considérable, tellement grande qu'elle peut arracher des électrons aux atomes qui constituent l'air. On parle d'ionisation de l'air. Ces électrons arrachés sont tellement énergétiques qu'ils ont une vitesse proche de celle de la lumière. Il arrive même parfois qu'ils entrent en collision avec d'autres atomes et les font passer dans un état excité. Pour revenir dans un état plus stable, les atomes doivent émettre ce qu'on appelle un rayon gamma. Ce type de rayonnement est le plus énergétique que l'on connaisse actuellement. Mais ce que des chercheurs japonais ont découvert il y a peu est encore plus fort que ça. Les éclairs seraient capables d'induire des réactions nucléaires. En effet, une équipe de l'université de Tokyo a découvert récemment une anomalie dans l'émission de rayons gamma engendrés par un éclair. Ils ont très clairement observé un pic assez étrange à une énergie caractéristique correspondant à une désintégration nucléaire. Ils ont alors réalisé une batterie de tests qui a finalement confirmé que le passage d'un éclair crée une faible quantité d'azote 13, alors que l'azote à son état naturel est de l'azote 14, qui se désintègre en carbone 13 et qui pourrait expliquer cette anomalie dans les rayons gamma. L'équipe japonaise affirme qu'il serait possible d'utiliser les éclairs comme un moyen d'étudier les désintégrations nucléaires pour potentiellement apprendre à mieux les maîtriser. Une prochaine session de mesure est prévue d'ici à l'année prochaine. On passe sans plus attendre à notre deuxième sujet. Une équipe de l'Institut Gustave Roussy s'est intéressée à une espèce de reptile particulière, le lézard des Andes, Mabuya. Non seulement ce reptile ne pond pas d'œufs, mais en plus, il possède un placenta, ce que l'on pensait réservé uniquement à une partie des mammifères, ne l'est donc en fait pas. L'équipe de l'IGR a réussi à montrer que ce placenta serait issu de l'infection de l'espèce par un virus voilà plus de 25 millions d'années. Faisons d'abord un petit point sur nos amis les virus. Les virus sont des organismes composés d'une membrane protéique dans laquelle est stocké son matériel génétique. Mais les virus ne peuvent pas répliquer leur ADN, seuls comme les cellules le font. Leur stratégie de survie est donc assez simple. Ils infectent des cellules pour qu'elles dupliquent leur matériel génétique à leur place. Pour ce faire, ils injectent dans la cellule leur ADN et d'autres protéines en fusionnant leur membrane avec celle de la cellule. L'ADN du virus vient alors s'insérer dans celui de la cellule, qui le réplique. C'est selon ce processus qu'une partie de l'ADN d'un ancien virus se serait retrouvée dans le matériel génétique des cousins de Mabuya. Le petit reptile serait apparu quelques temps après. Pour être plus précis, les chercheurs ont trouvé dans le génome des femelles Mabuya un gène codant pour la syncytine, une protéine nécessaire au fonctionnement du placenta. Ce serait elle qui a été implantée par le virus. Cette protéine servait en effet au virus pour permettre la fusion de leur membrane plasmique avec celle de la cellule infectée, et ce bien avant d'arriver chez les animaux. Aujourd'hui, cette découverte permet de donner encore plus de crédit à une nouvelle voie de traitement des patients atteints de maladies génétiques, appelée thérapie génique. Elle consiste à utiliser des virus modifiés, dans lesquels on place une séquence d'ADN humaine valide pour remplacer une autre séquence défaillante chez l'humain. Le virus infecte les cellules humaines, le matériel génétique défaillant est remplacé et par division de la cellule, la bonne version du gène est généralisée dans l'organisme. L'exemple de ce reptile montre que cette technique est viable et aurait un effet durable sur l'organisme, ce qui est un très bon point en faveur de son développement. Passons à présent aux autres faits marquants de cette semaine scientifique. Une équipe de chercheurs lillois a eu l'idée assez farfelue de passer au crible près de 30 000 espèces de champignons pour voir quelles étaient leurs propriétés médicinales. Et surprise, au milieu de l'eau se trouve le clitocybe inversé. Ce champignon tout à fait banal possède en fait la capacité de corriger des mutations appelées non-sens, qui sont présentes chez près de 10% des malades atteints de mucoviscidose. Des tests faits in vitro sur des cellules de patients atteints montrent des résultats très positifs. L'extrait de champignon permet de rétablir la production de protéines fonctionnelles dans les cellules, laissant apparaître un espoir de guérison. De nouveaux traitements à base de ce champignon comestible sont à l'étude. Ces traitements possèdent de nombreux avantages. Faible coût de production, grande productivité, toxicité nulle ou très faible à très long terme, voire à vie. Pour pouvoir lancer une production à plus vaste échelle, il reste encore à identifier les molécules actives, mais l'équipe lilloise reste très confiante quant au développement de potentiels nouveaux médicaments. Une étude conjointe de chercheurs américains et suédois a montré que le taux d'apparition d'espèces sur les îles Galapagos était bien plus élevé que ce qui est estimé aujourd'hui. Ils ont étudié l'effet de l'arrivée d'une nouvelle espèce de pinson de Darwin sur l'une des îles de l'archipel. Ce nouveau pinson s'est reproduit avec une espèce déjà présente sur l'île, créant ainsi une nouvelle espèce de pinson de Darwin en seulement 2 générations, contrairement aux 6 attendues par les scientifiques. Cette spéciation ultra rapide est expliquée par l'isolement. Aucune terre à moins de 100 km autour de l'île étudiée. Les descendants du premier accouplement n'ont donc eu d'autre choix que de se reproduire entre eux à cause des différences marquées avec les autres espèces présentes sur l'île. D'après l'équipe de chercheurs, ces résultats sont très encourageants quant au maintien de la biodiversité dans l'archipel des Galapagos. Ils concluent même leur article, paru dans Nature, en disant que Darwin aurait été ravi de lire cet article. Une nouvelle avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle a été annoncée récemment. Maintenant, les machines n'ont plus besoin de l'homme pour apprendre une langue. Auparavant, pour pouvoir traduire une langue, l'homme rentrait dans la mémoire de l'ordinateur l'ensemble des dictionnaires possibles et imaginables, ce qui coûtait énormément à la fois en temps et en mémoire. Deux équipes ont indépendamment montré qu'en laissant faire la machine seule, elle réussissait les traductions beaucoup plus vite et avec moins de fautes. Le système d'apprentissage marche sur les associations fréquentes entre des mots. Par exemple, le mot « table » est souvent employé avec le mot « chaise ». C'est en créant un réseau avec ces associations que les intelligences artificielles créées ont réussi à obtenir des résultats très prometteurs. Non seulement elles peuvent traduire des mots isolés, mais également des phrases entières, parfois complexes. Cette annonce, bien que prometteuse, n'a évidemment pas manqué de relancer le débat éternel du rapport de force entre la machine et l'homme. C'en est tout pour cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités scientifiques, parce que la science n'attend pas.